Vous écoutez On lit pour vous.
Des joueurs portent secours à une femme victime d'un accident. Un texte de Catherine Harvey-Pinard, paru le 3 février 2026 dans La Presse. Des joueurs du bataillon de Saint-Hyacinthe, de la Ligue nord-américaine de hockey, venaient de prendre la route pour revenir à la maison après leur victoire en Beauce, dans une nuit de fin janvier 2026, quand une femme a perdu la maîtrise de son véhicule sous leurs yeux. Les quatre hommes n'ont fait ni un ni deux et lui ont porté secours. Les joueurs, Samuel Loisel, Sébastien Sylvestre et Maxime Saint-Cyr, ainsi que le préposé à l'équipement du bataillon, Mathieu Picard, avaient fait le voyage ensemble dans une même voiture. La route, ce soir-là, était assez glacée, raconte Samuel Loisel à La Presse quelques jours après l'événement. Il faisait moins 20 degrés Celsius en Beauce. Ce n'était pas glissant, mais tu ne veux quand même pas prendre des virages avec trop de confiance à cette température-là. Quand une voiture les a doublés par la gauche, le chauffeur, Maxime Saint-Cyr, a attiré l'attention de ses trois amis. Elle a commencé à faire des zigzags. On a regardé la scène aller. C'était comme au ralenti, se souvient Samuel Loisel. Elle a donné un dernier coup de volant. Je pensais presque qu'elle allait le ramener, mais à la vitesse à laquelle elle allait, tu ne décélères pas très vite. Elle est partie vers la droite et est rentrée directement dans un banc de neige. Selon l'athlète de 25 ans, l'importante quantité de neige a sans doute amorti un peu l'impact et évité que la voiture fasse d'autres tonneaux. Elle est montée haut dans les airs. Elle a fait un 180, puis un demi-tonneau, si on veut. Le côté conducteur était rendu face à la route. Un consensus. Les trois passagers ont tous eu la même réaction. Demander à Saint-Cyr d'arrêter le véhicule, ce qu'il avait déjà planifié de faire. C'était un consensus. On ne s'est pas posé de questions. Pendant que Saint-Cyr appelait les secours, Loisel, Sylvestre et Picard se sont rendus jusqu'au véhicule accidenté. Ils ont ouvert la porte, qui devait peser presque le double de ce qu'elle pèse d'habitude, dixit Loisel. Je cognais dans la vitre. Je pense qu'elle a réussi à me débarrer les portes. Je ne voyais rien parce qu'il y avait les coussins gonflables. Je l'ai questionnée. Êtes-vous seule? Êtes-vous correcte? Je voyais qu'elle ne saignait pas, qu'elle avait l'air étourdie et qu'elle pleurait. Elle était en état de choc. Elle m'a dit « Détache-moi, s'il te plaît. Je veux juste un câlin. Je veux sortir. » La dame était une Américaine d'une soixantaine d'années, selon Loisel, qui, avec l'aide des trois autres hommes, a réussi à l'extirper de l'automobile. Ils l'ont escortée jusqu'à leur auto, où la femme a pu se réchauffer et retrouver ses esprits. Pendant que Sylvestre appelait la famille de la dame et que Saint-Cyr parlait avec les secours, Loisel est retourné dans la voiture accidentée à la recherche d'effets personnels égarés. C'était la folie furieuse dans cette auto-là. Il y avait pas mal de désordre. J'ai réussi à trouver son cellulaire parce que son auto a appelé le 911 à sa place. Les quatre bons samaritains sont restés sur place avec la dame, qui n'avait pas de blessure apparente, jusqu'à ce que les policiers et les ambulanciers arrivent sur les lieux et prennent le relais. On était content qu'elle aille bien, de dire Loisel. Bros for life. Les membres du bataillon ont ensuite repris la route en direction de la maison. Le lendemain, l'organisation a publié sur ses réseaux sociaux un bref message relatant les événements et saluant le geste de ses joueurs. Depuis, la publication a reçu des milliers de réactions et des centaines de commentaires. Loisel avoue avoir hésité à rendre le tout public. « Après tout, c'était naturel d'arrêter, » dit-il. « On ne voulait pas de mérite pour ça. C'est littéralement un devoir de faire ça. » Je pense que ce qui est impressionnant dans l'histoire, c'est que c'est positif parce que la dame s'en sort super bien. On a travaillé en équipe, affirme Samuel Loisel. J'encourage les gens à arrêter et à être prudents sur les routes. En même temps, si je peux encourager les gens à venir voir c'est quoi une équipe soudée sur la glace à Saint-Hyacinthe, je les invite à venir nous voir, ajoute-t-il au passage. Fait intéressant, Loisel jouait pour le National de Québec avant les fêtes. Il a été échangé au bataillon le 20 janvier. Difficile de trouver meilleure façon de connecter avec ses coéquipiers, lui fait-on remarquer. Exactement. Bros for life, à partir de là. C'était « Des joueurs portent secours à une femme victime d'un accident ». Un texte de Catherine Harvey-Pinard, paru le 3 février 2026 dans La Presse.
Ces personnes stressantes qui font vieillir leurs proches. Un texte de Jean-Benoît Legault, publié le 30 mars 2026 dans Le Devoir. Bien que de pouvoir compter sur un réseau social solide puisse aider à vieillir en santé, la présence dans notre entourage de gens jugés « stressants » entre guillemets peut en revanche accélérer le vieillissement, prévient une nouvelle étude. Citation. Il y a beaucoup de recherches qui montrent que le soutien social positif peut vraiment servir d'effet tampon pour plein de choses, tant sur le plan psychologique que physiologique. Fin de citation, a commenté la professeure Marie-France Marin du département de psychologie de l'Université du Québec à Montréal. Citation, de ne pas avoir de soutien social, c'est autre chose. Mais ici, les chercheurs viennent dire non. Lorsqu'on a un soutien social, mais quand on a des liens qu'on trouve plus difficiles, qu'on a l'impression qu'ils nous tirent du jus, est-ce que ça a un impact? Fin de citation. Les chercheurs américains ont recruté un peu moins de 2350 participants âgés de 18 à 103 ans pour leurs travaux. Les participants ont fourni des échantillons de salive afin de calculer deux indicateurs complémentaires du vieillissement biologique. On a aussi demandé au sujet de nommer les gens qu'il côtoyait, avec qui il discutait de choses personnelles, ou encore qui influençaient leurs habitudes de vie. Mais surtout, on leur a demandé s'il y avait dans leur entourage des gens qui sont pour eux une source de stress, ceux que les auteurs de l'étude appellent les « casse-pieds ». Près de 30% des participants ont indiqué avoir au moins un casse-pied dans leur entourage et environ 10% ont dit en avoir deux. En analysant les échantillons de salive, les auteurs ont conclu que chaque casse-pied correspondait à environ 9 mois de plus d'âge biologique et à une accélération d'environ 1,5% du vieillissement biologique. Membres de la famille. Le vieillissement biologique, font remarquer les chercheurs américains, citation, est un processus cumulatif et même des différences minimes dans le rythme annuel peuvent se traduire au fil du temps par un écart significatif de l'âge biologique. Fin de citation. L'association était particulièrement importante si les casse-pieds faisaient partie de la famille plutôt que du cercle d'amis, puisqu'il peut être plus difficile d'élaguer les premiers que les seconds. Ainsi, seulement 3,5% des amis étaient aussi des casse-pieds, comparativement à un proche sur 10. Citation. Si c'est une relation avec les parents ou avec les enfants qui cause du stress, on ne dira pas simplement « je m'en vais », a dit la professeure Marin. Mais si ce sont des amitiés qui nous tirent vers le bas, il faut peut-être se questionner et miser davantage sur des relations de qualité. Surtout à l'ère des réseaux sociaux où on accorde beaucoup d'importance au nombre d'amis. Fin de citation. Les relations difficiles avec une ou un conjoint ou partenaire n'avaient pas le même effet accélérant sur le vieillissement, possiblement parce que ces relations comprennent aussi de multiples aspects positifs qui viennent mitiger l'impact néfaste sur la santé. Citation. Nos résultats suggèrent que la négativité au sein du couple pourrait être atténuée par le mélange ambivalent de soutien et d'obligation qui caractérise les relations intimes, tandis que les conflits familiaux, souvent très chargés émotionnellement, mais difficiles à surmonter, laissent une empreinte évidente sur le vieillissement, peut-on lire dans l'étude. Différents facteurs de stress. Il est important de noter, a souligné Marie-France Marin, que tous n'ont pas la même perception du facteur de stress. S'il s'agit par exemple d'un divorce ou de difficultés financières, les personnes impliquées pourront avoir des perceptions bien différentes de la situation et donc aussi y réagir de manière différente. Citation. Est-ce qu'un facteur de stress est pire qu'un autre? C'est difficile à dire, a-t-elle dit. Dans ce cas-ci, puisqu'on a déjà beaucoup étudié l'aspect positif du soutien social, je pense que les auteurs ont voulu s'intéresser à la nature des relations plutôt que de simplement demander si, oui ou non, il y a des relations. Fin de citation. Si l'on sait que des liens sociaux favorables atténuent le déclin physiologique lié à l'âge, écrivent ainsi les auteurs de l'étude, citation, l'absence de tels liens n'équivaut pas à la présence de liens négatifs. Fin de citation. Et même si plusieurs gens côtoient régulièrement, voire quotidiennement, des personnes qui leur causent des problèmes ou leur compliquent la vie, étonnamment peu d'attention a été accordée aux répercussions potentielles à long terme sur la santé, puisque, citation, le fait qu'elles nous soient familières nous pousse souvent à les considérer comme normales et à les supporter. Fin de citation. Autre citation. Nous constatons que les personnes interrogées qui côtoient davantage de casse-pieds présentent une accélération de l'âge épigénétique nettement plus marquée, un résultat qui reste valable même après avoir pris en compte l'orientation affective, la profession, les expériences négatives vécues pendant l'enfance, le tabagisme et les comorbidités antérieures, en plus des caractéristiques démographiques et de la taille du réseau social, indiquent les auteurs. Risques souvent négligés. Ces résultats, poursuivent-ils, citation, suggèrent que les casse-pieds présents dans l'environnement social d'un individu pourraient constituer un facteur de risque biologique souvent négligé, mais néanmoins déterminant. Fin de citation. L'organisme réagit au stress en produisant des hormones comme le cortisol et l'adrénaline. Leur activation prolongée peut toutefois nuire à la santé mentale en exacerbant des sentiments d'anxiété et de dépression, rappellent les chercheurs, tandis qu'un stress social chronique peut être une source importante d'inflammation. Les auteurs de l'étude soulignent par ailleurs que l'association entre une accélération du vieillissement et les casse-pieds n'est pas noire ou blanche. Il est en effet possible, disent-ils, que d'autres facteurs qui accélèrent le vieillissement, comme des problèmes de santé physique ou mentale, viennent teinter la perception des relations interpersonnelles, transformant ni plus ni moins en casse-pieds des gens qui n'en sont peut-être pas vraiment. Si c'est le cas, concluent les chercheurs, c'est le vieillissement accéléré qui serait responsable des casse-pieds plutôt que l'inverse. Les conclusions de cette étude ont été publiées par le journal scientifique PNAS. C'était « Ces personnes stressantes qui font vieillir leurs proches », un texte de Jean-Benoît Legault publié le 30 mars 2026 dans Le Devoir.
Sans cellulaire, moins de bagarres? Un texte de Mélanie Marquis, paru le 24 mars 2026 dans la presse. La bataille n'est pas gagnée, mais l'interdiction du cellulaire à l'école pourrait avoir contribué à une diminution des bagarres entre élèves, car en privant les jeunes d'un outil à dégainer, on les a empêchés de capter du contenu qui était parfois taillé sur mesure pour les réseaux sociaux. Habituellement, quand tu fights, c'est plus pour le show, pour montrer que t'es le plus fort. Donc, lorsque tu as les écrans, tu veux encore plus le montrer parce que les autres gens vont le voir. Cette année, il y en a moins que l'année passée, raconte Magali Girard, qui fréquente l'école secondaire Leblanc à Laval. Il y avait un compte Instagram où on postait toutes les batailles qu'il y avait. Et il y en avait quand même beaucoup, poursuit-elle. Je dirais qu'il y a eu au moins une vingtaine de fights durant l'année. Et cette année, il y a eu environ 3 gros fights. Ça a beaucoup diminué parce que les gens se sont moins filmés. L'adolescente de deuxième secondaire a fait cette observation à l'occasion d'une table ronde réunissant près d'une vingtaine de représentants de comités d'élèves de l'ensemble des écoles secondaires situées sur le territoire du Centre de services scolaires, CSS, de Laval. Sa constatation est-elle exacte? Le directeur de l'établissement, David Godard, n'est pas prêt à en conclure que l'interdiction du cellulaire à l'école, instaurée à la rentrée scolaire, a eu ce bienfait spécifique, pas plus qu'il n'est en mesure de confirmer une diminution du nombre d'altercations physiques d'ailleurs. C'est difficile d'établir un lien de cause à effet, souligne M. Godard. Mais c'est sûr que ça enlève un petit quelque chose, un petit incitatif qui permettrait aux élèves de capter l'attention sur les réseaux sociaux. Ça, je suis persuadé que ça a un avantage. Il souligne que tous les intervenants de l'école, y compris les agents communautaires du service de police de Laval, SPL, rament dans la même direction et qu'une vigie du contenu qui circule sur les réseaux sociaux est assurée, car ce qui se passe là-dessus, il faut gérer ça. Les bagarres filmées ont un potentiel de viralité sur les réseaux sociaux, ce qui peut inciter des adolescents à faire des mises en scène dont le théâtre peut être l'école. Ce type de contenu n'est pas banni sur les plateformes. Mais sur Instagram, par exemple, les parents peuvent modifier les paramètres pour limiter l'exposition. Invité à brosser un portrait de la situation dans les écoles secondaires de l'île Jésus, un porte-parole du SPL a déclaré que les policiers écoles n'avaient pas remarqué à leur niveau de diminution d'événements violents dans les milieux scolaires depuis l'interdiction de cellulaires. Il faudra attendre la fin de l'année pour comparer les statistiques, mais à ce stade-ci de l'année scolaire, ils n'ont pas vu de différence flagrante dans leurs interventions, a précisé dans un échange de textos le sergent Laurent Arsenault. Les autres sphères de la violence. En ouverture de la rencontre où Magali Girard a parlé de « fight », les adolescents ont été invités à nommer des irritants du quotidien. En l'absence d'un thème imposé, ils ont parlé de toilettes bouchées, d'une surveillance jugée trop étroite dans des toilettes mixtes, de grillages métalliques empêchant d'ouvrir les fenêtres. Les réactions ont aussi fusé lorsque le point de la violence et l'intimidation est arrivé à l'ordre du jour. Entre deux bouchées de la pizza qui avait été livrée pour eux, les élèves ont affirmé en vrac, même en classe, des élèves insultent des profs. Ou « j'ai vu des lancers de bureau et des lancers de chaises vers des profs ». Et puis, il y a eu ce grain de sel de Théo Broomfield-Roux, du comité des élèves de l'école secondaire Saint-Maxime. « Il y a moins de violence physique, mais moi je pense qu'on ne voit pas les autres sphères de la violence ». Car dans la sphère virtuelle, l'interdiction des cellulaires à l'école n'a rien changé, estime-t-il. Ceux qui se font intimider, on le voit moins que s'il y a des batailles ou des choses qui se passent dans l'école. Parce que ça se passe sur les réseaux sociaux et le personnel de l'école n'est pas au courant de ce qui arrive. L'art martial de se défendre. Autour de lui, on acquiesce. Puis un élève qui préfère ne pas être identifié y va d'une suggestion. Je ne m'attends pas à ce que l'idée se mette en place, mais je pense que ça peut être utile. J'ai commencé à faire du judo, et je pense que ça peut être très utile pour tous, dit-il en notant que cet art martial, ce n'est pas des coups, c'est de la défense. Sans balayer l'idée sous le tapis, un des adultes qui anime la table ronde mentionne que si on peut éviter la bagarre, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. À plus forte raison, durant la semaine, de la prévention, de la violence et de l'intimidation dans les écoles qui s'est ouverte lundi dans les écoles québécoises. Les dérapages à l'école des Perséides. À l'issue de la discussion entre adolescents à laquelle nous avions été conviés par le CSS de Laval, la directrice générale adjointe du CSS, Julie Lavigne, se dit heureuse d'avoir été témoin de ces échanges authentiques, saluant le fait que les jeunes osent dénoncer. Il y a quelques semaines, le climat de violence qui sévissait dans un établissement à Laval, l'école des Perséides, a été dénoncé de façon anonyme par des adultes qui y intervenaient. Il y avait des gens plus résistants au changement de pratique, commente Julie Lavigne avec une extrême prudence. Le lien à faire, c'est que 100 fois sur le métier, il faut remettre son ouvrage. Les nouvelles approches, ça ne fonctionne pas toujours. Mais on a des outils, enchaîne-t-elle aussitôt. Au moins 2 plaintes ont été reçues par le SPL dans ce dossier, mais aux dernières nouvelles, aucune accusation n'avait été portée. C'était « Sans cellulaire, moins de bagarres », un texte de Mélanie Marquis, paru le 24 mars 2026 dans la presse.
Le vol de plus de 410 000 barres KitKat régale les réseaux sociaux. Un texte de Marieke Glorieuse-Strickman, paru le 3 avril 2026 dans Le Devoir. Le 26 mars 2026, un camion en route du centre de l'Italie vers la Pologne a disparu. Sa cargaison, plus de 410 000 barres KitKat, soit environ 12 tonnes de chocolat. Le vol, qui a eu lieu à quelques jours de Pâques, est rapidement devenu viral et une opportunité pour Nestlé. Le camion disparu devait distribuer 413 793 barres en chocolat de la nouvelle collection KitKat en partenariat avec F1. Quelque part sur le chemin d'environ 1300 km que le camion devait parcourir à travers l'Europe, il a disparu et avec lui son cargo. Nestlé a confirmé qu'il n'y a pas eu de blessés lors du vol. Le véhicule et son contenu restent introuvables. L'enquête se poursuit activement, a écrit un porte-parole de la compagnie Au Devoir. L'histoire du vol s'est propagée sur Internet et les publications annonçant le vol sur les comptes Instagram et X de KitKat ont récolté environ 12 000 et 405 000 likes, respectivement. D'autres compagnies en ont profité pour répliquer ou recréer la publication devenue virale de KitKat. Désolé tout le monde, nous étions en test de produit pour notre 12e mélange d'herbes et d'épices, peut-on lire sur une publication du compte X et de Poulet Frit Kentucky. Le compte de Ryanair a simplement partagé une image d'un avion avec une bouche remplie de KitKat. Même Tourisme Montréal s'est prêté au jeu, offrant ses condoléances à KitKat avant d'ajouter « Sur un tout autre sujet, nous sommes heureux d'annoncer la sortie d'un nouveau bagel à saveur de KitKat ». Quelques jours plus tard, KitKat a publié une déclaration officielle en réponse à l'autre déclaration officielle sur ses plateformes. « Merci de votre intérêt pour les KitKat disparus », peut-on y lire. Mais juste pour clarifier, ceci n'est pas un coup de publicité ou une blague du poisson d'avril. Quelqu'un a vraiment volé 12 tonnes de KitKat, et nous voulons vraiment savoir où elles sont parties. La compagnie y annonce aussi la création d'un tracker de KitKat volé, où les utilisateurs peuvent envoyer le numéro de lot de leur KitKat pour savoir s'il fait partie de ceux qui ont été volés. Une stratégie ingénieuse, selon Colin Magg, professeur d'économie à l'université McMaster. Selon lui, le tracker pourrait augmenter l'intérêt pour les barres KitKat. Si tu sors et que tu te dis « Oh, il y a un KitKat, je vais essayer le tracker pour voir ce que ça fait » et tu vas l'acheter. La viralité de l'histoire pourrait ainsi aider Kit Kat à récupérer une partie de l'argent perdu lors du vol. Selon M. Meng, il y a aussi un deuxième objectif, aider la compagnie à retrouver son cargo perdu. C'est un coup ingénieux puisqu'ils n'ont pas beaucoup d'informations pour l'instant sur le vol, donc ils laissent leurs clients enquêter pour eux, lancent-ils. Mais pourquoi voler des barres Kit Kat? Selon M. Meng, un produit comme les barres Kit Kat peut être vendu sur le marché noir et redistribué. Si tu voles 413 000 barres de Kit Kat, tu ne vas pas juste les mettre dans ton sous-sol et les grignoter petit à petit, illustre-t-il. C'est clair que c'est quelque chose qu'ils ont planifié et que les voleurs ont une stratégie sur ce qu'ils vont faire avec les chocolats. J'imagine qu'ils vont finir par se retrouver dans de petites épiceries à travers l'Europe. Le coût du chocolat, qui a augmenté dans les dernières années à cause d'une pénurie de cacao et d'une hausse du prix du sucre, en fait un bon produit pour la revente. M. Meng estime qu'une tonne de chocolat coûte actuellement 3 200 $ US. C'est un petit montant en termes de la production totale de Nestlé, précise le professeur, mais la valeur sur le marché est très haute. Les vols de cargo sont d'ailleurs en hausse, en Europe comme en Amérique. Selon l'entreprise d'analyse de données Verisk, les pertes liées à ce type de vol ont coûté 725 millions de dollars américains en Amérique du Nord l'an dernier et les vols de nourriture et de boissons y ont augmenté de 47 %. Selon M. Meng, les vols de cargo sont souvent orchestrés par des groupes de crimes organisés. Ce n'est pas des criminels ordinaires qui voient un camion et qui disent « Oh, je vais le voler ». Ce sont des opérations bien planifiées et bien organisées. Dans l'ensemble, l'augmentation des vols de cargo peut contribuer à une hausse des prix, explique M. Meng. Nestlé, de son côté, n'a pas évité une touche d'humour dans son appel à la sensibilisation au danger de ces vols. Bien que nous apprécions le goût exceptionnel des criminels, il n'en demeure pas moins que le vol de marchandises est un problème croissant pour les entreprises de toute taille, a déclaré l'entreprise par voie de communiqué. C'était le vol de plus de 410 000 barres Kit Kat régale les réseaux sociaux. Un texte de Marieke Glorieuse Strickman, paru le 3 avril 2026 dans Le Devoir.